Inouï, une émission.
Une émission de création
et documentaire sonore
par les étudiants du Créadoc d'avant.
On est vraiment dans la tradition du terroir.
Et d'aujourd'hui.
Bonjour, bonsoir, bonne nuit et bienvenue sur Inouï. L'émission qui vous plonge au cœur d'ambiance et d'histoire du réel. Aujourd'hui, nous vous proposons deux œuvres réalisées par des étudiants tout juste ou pas encore sortis du Créadoc, ce master de réalisation documentaire situé dans la ville d'Angoulême. Ces deux créations mélangent temps et espace, histoire actuelle, passée ou contée, voix fluette aux plus âgées, paysages qui disparaissent et paroles enregistrées. On commence avec un documentaire de Victor Blanchard, une discussion entre lui et son grand-père sur la vie de ce dernier, sur la transmission et la mémoire. Comment et pourquoi raconter l'histoire d'une vie ? On vous laisse vous plonger dans cet échange sur fond de nougat et de souvenirs épiques. C'est Tirer le fil.
Tu veux un morceau de nougat ? Mange du nougat si tu veux.
Non mais ça va, j'ai bien mangé à midi, alors là je suis un peu...
Tirer le fil. Un documentaire de Victor Blanchard.
Tu vois, dans cette... ici, il y a deux objets que j'ai vus toute ma vie. Ce réveil, qui était dans la chambre de mes parents quand je suis né, je l'ai vu toute ma vie. Avant, c'était mécanique. Maintenant, c'est une pile. Ça dure un an. Et puis, le chandelier qui est là. C'est mon père qui l'avait ramassé dans un village complètement dévasté à Verdun. Le chandelier. Et je l'ai vu toute ma vie. Ces deux choses-là, c'était... Et puis j'étais un enfant assez turbulent qui donnait des inquiétudes à ses parents, notamment à telle enseigne, c'est qu'un jour, j'ai reçu une lettre du Père Noël me disant que j'étais pas sage, que j'étais pas gentil, et cette lettre qui avait été tapée évidemment par mon père sur la machine à écrire, et le lendemain matin, devant le sapin, il y avait des paires de chaussures. Ma sœur, qui était charmante, était couverte de cadeaux. Et moi, j'avais une petite paire de chaussures vernis noires sur lesquelles il y avait un martinet. C'était mon cadeau de Noël, un martinet. Évidemment, je faisais sans doute une triste mine, et paraît-il que j'ai dit, avec en toute innocence, ces chaussures, je ne les mets plus depuis longtemps. Donc, ça ne me concernait pas. Et ensuite, les événements de la vie ont fait qu'on a quitté Armont et on est venu s'installer à... à Marolles, ouais, pourtant Dieu sait. Alors en réalité, dans ma jeunesse, j'ai fait une dizaine d'années à Hermont et à peu près autant de temps à Marolles où je suis resté, oui, 35 à 43. L'oxygène, ça me sèche le nez. Alors après, ça me... fait rien, ça. Ah, ça souffle bien.
Ah, ah oui. Hein?
Alors, le 18 juin 40, tu faisais quoi, toi, papy?
Hein?
Le 18 juin 40, tu faisais quoi?
Le 18 juin 40, je l'ai pas entendu. On était, c'était pendant les, après l'Exode, début de l'occupation.
Pardon.
Et on revient à Romorantin, la place noire de Monde. Les réfugiés, il y en a qui rentraient dans la maison. Est-ce que vous avez pour un verre d'eau? Est-ce que vous avez pour un verre de lait pour un enfant? Ma tante, elle donnait tout. Et mon oncle écoutait la radio. À ce moment-là, il y a un gars qui rentre dans la maison. Il dit, monsieur, est-ce que vous voulez bien que j'écoute les nouvelles avec vous? Parce qu'on ne sait plus très bien où on en est, etc. Il dit, bien sûr. Il dit, même si vous voulez, on va écouter Londres parce que je comprends l'anglais couramment et je saurai ce qui se passe là-bas, ce qui est dit à Londres. Et bien sûr. Sur ce, on annonce l'armistice. Mon oncle, qui était un homme chaleureux et costaud, il avait 45 ans, il était en pleine force, etc. Je vois mon oncle s'effondrer en larmes devant le poste. Moi, je me disais, c'est pas possible qu'il pleure. Et puis, c'était un effondrement. Le gars qui était rentré, qui comprenait l'anglais, il dit, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais à Londres, on dit qu'il y a, l'armistice est signé, mais qu'il y a un général français qui veut continuer la guerre. C'était De Gaulle. Moi, je ne l'ai pas entendu. Le 18 juin, je ne l'ai pas entendu. Mais il a parlé plusieurs jours de suite, et un soir, je l'ai entendu. C'était le 22 juin, peut-être le 25 juin, ça je ne sais plus. Et c'était la première fois qu'on entendait parler de
le gouvernement français.
De Gaulle. Voilà.
Après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi.
Elle m'a dit ceci, très exactement. J'ai un copain qui fait les mêmes conneries que toi, vous allez bien vous entendre. Et c'est comme ça que je suis entré dans la résistance. C'est vrai. C'est un rigolo, ce gars-là. Il était étudiant à Paris, à la Salpêtrière, quoi, à l'hôpital. André Ciboulet, il s'appelait. Il y a longtemps qu'il est mort et enterré, le pauvre. Et il avait 10 ans de plus que moi.
Alors, quand t'es arrivé à Paris, t'as dû chercher un endroit où habiter?
Alors, j'ai dit que j'ai habité, mais je te l'avais dit, ça, déjà.
Oui, redis-le moi, parce que j'avais pas enregistré.
Ah bon? Alors, j'ai commencé à habiter dans un studio. Je me suis installé avec tout mon matériel clandestin, c'est-à-dire la possibilité de faire des faux papiers, distribution des tracts, et enfin j'étais très bien. Et j'étais amené à partir de cet endroit assez rapidement, parce qu'un technicien radio me téléphonait, que je connaissais, et il avait pensé à un moment que mon téléphone avait été repéré. Il y avait, paraît-il, des tonalités qui permettaient de penser qu'il y avait des écoutes. Alors là, je suis parti et j'ai cherché pour trouver un lieu de chute qui soit relativement protecteur. Rien ne l'était totalement, mais là, j'avais été dans un hôtel d'étudiants antérieurement. Alors je suis allé un soir.
Alors raconte-moi comment ça s'est passé quand t'es arrivé.
Mais comment ça?
Bah dans cet hôtel. Quand oui. t'es arrivé le soir, comment ça s'est passé?
Ah, bon, ça c'est anecdotique. Hein.
C'est ici, Hôtel Royer Collard.
Je suis tombé sur le mari de la patronne, qui était géomètre, et qui réparait sa bicyclette, ce qui à l'époque était un moyen de transport très utilisé.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je cherche la patronne de l'hôtel.
Vous arrivez trop tard, elle est dans sa chambre à cette heure-ci.
Ah bah, c'est bien ennuyeux. Et vous êtes sûr que c'est pas possible de la voir? Enfin, je suis dans une situation délicate. J'ai absolument besoin de lui parler.
Vous êtes embêté?
Ah oui, oui, je suis embêté.
Vous êtes vraiment embêté?
Oui, vraiment, vraiment embêté.
Bon. Dans ce cas, je vais voir ce que je peux faire. Bougez pas.
Merci beaucoup, monsieur.
Et sa femme était dans sa chambre. Alors, il a vu que j'étais bien embêté. Il est allé la chercher.
Alors, re-raconte-moi exactement comment ça s'est passé, papy. T'es arrivé, qu'est-ce que tu lui as dit?
À qui?
Bah, au mari.
Eh ben, il a bien compris que je cherche un endroit protecteur, compte tenu de ce que je faisais, ce que savait la patronne, sa femme.
Mais quand t'es arrivé, il t'a dit « vous êtes embêté », etc. Tu peux me refaire la scène?
Ah oui, oui, oui.
Bonsoir, jeune homme. Qu'est-ce que vous voulez?
Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger à cette heure tardive. J'ai dû quitter mon studio précipitamment et je cherche une chambre.
Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider, mais nous sommes complets.
Vraiment? Bon, bah dans ce cas, je vous dérange pas plus longtemps.
Mon mari me dit que vous êtes embêtée.
Oui, madame. Oui, oui, oui. Ma ligne téléphonique est sur écoute. Je peux pas rester plus longtemps dans mon studio.
Il est allé donc chercher sa femme, qui est descendue.
Papy, est-ce que tu peux me redire de la même façon dont il te l'a dit?
Eh ben, c'était ça, et alors, elle m'a dit, j'ai
non,
plus...
Non, mais est-ce que tu peux me redire?
Ah, ben, je sais pas quoi te dire, là. Il m'a demandé, vous êtes embêté? Ben, je dis, oui, je suis vraiment embêté. Et, il m'a dit, je vais chercher ma femme, elle va pouvoir voir avec vous ce qu'elle peut faire. Et sa femme est descendue, elle m'a dit, je n'ai plus de place. Et puis, vu mon embarras, elle m'a dit, oui, vous êtes embêté. Ah ben, je dis, oui, madame, oui, 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 oui. Bon, eh bien, écoutez, j'ai une pièce où il y a des meubles.
J'ai une pièce où il y a des meubles.
Je vais la faire vider demain matin.
Vous pourrez vous installer demain.
Et vous viendrez vous installer dans cette pièce qui est au troisième étage.
Et vous me donnerez le nom que vous voulez, ça n'a pas d'intérêt.
Ça va, t'es content?
Merci, madame, merci beaucoup. À demain, alors.
À demain.
Merci. Voilà, c'est terminé. C'est fini. C'est fini.
Ah
tu
bon?
Peux enlever. Tu peux enlever le casque.
C'est ce que je t'ai raconté, ça?
Ouais, alors tu reconnais, t'as reconnu?
Ouais.
Est-ce que ça te semble légitime?
Quoi?
De faire une reconstitution comme ça?
Bah oui, c'est la vérité, hein. C'est des souvenirs bien ancrés qui ont marqué ma vie à cette époque-là.
Tu m'as raconté d'une certaine façon, et si tu vas la raconter à quelqu'un d'autre, tu vas peut-être pas forcément raconter cette scène-là.
Oh, bah si.
Tu la racontes?
Pareil.
Pareil?
Bah oui, parce qu'il y a un souvenir, c'est un souvenir. Moi, je ne peux pas transformer ce souvenir autrement que comme je le raconte, puisque ça ne serait plus la vérité. Tandis que là, ce que je raconte d'une façon ou d'une autre en mémoire, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de... Je ne mets pas de fioriture autour, je... Voilà.
15 novembre 1990. Au soir de son 65e anniversaire, et sa vie s'étant de toute manière largement écoulée pour le temps qu'il passera ici-bas, le narrateur de ces pages a ressenti toute l'affection délicate et chaleureuse qui l'entourait. Il en est même intérieurement bouleversé. Aussi voudrait-il réaliser enfin son projet, depuis longtemps envisagé, de raconter l'histoire familiale de façon aussi complète et précise que possible, dans la limite, bien sûr, de ce qu'il peut en savoir.
Quand j'ai écrit ces bouquins-là, ça fait 25 ans, ça m'a demandé à peu près 5 ans de recherche et 5 ans d'écriture, à peu près, hein, et il en est sorti, les 6 volumes qui sont là. J'avais une capacité de mémoire et de concentration que j'ai moins maintenant, ça c'est vrai. Mais ce que j'ai raconté, tu sais, comme l'image de Larousse, je sème à tout vent, avec le, tu sais, le...
Le pissenlit.
Bon, alors moi je raconte, et je ne sais plus qui disait, je leur donne de la vie, et ils reçoivent de l'histoire. Ça, c'est important. Parce que moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, pour moi, c'est un peu un moment fort que j'ai vécu librement parce que j'ai été marqué par ma famille qui était patriote. Et quand je dis patriote pendant l'occupation, c'était pas nationaliste. Le nationalisme, c'est une attitude politique. Moi, c'était pas ça. Et beaucoup de gens qui ont été dans la résistance, c'était du patriotisme, c'est-à-dire le malaise que l'on ressentait d'avoir une présence occupante en France. Voilà. Et ça, ça a été un des points de départ par ma famille, dont je vivais avec la mémoire permanente de la guerre de 14. Mes oncles, mon père, tout le monde avait été amené à vivre cette aventure tragique et j'ai été élevé là-dedans. Ces choses-là m'ont amené, m'ont confirmé dans cette volonté de faire ce que je pouvais. J'avais 15 ans et demi. Il y a 15 ans et demi. Évidemment, mes possibilités étaient très limitées. J'étais un modeste sous-fif, mais j'étais embarqué dans cette action. C'était pour moi un choix qui a pesé dans ma vie, où j'ai rencontré des gens exceptionnels, de courage, de pureté. Il n'y avait pas que ça, mais il y avait ça. Voilà. Et à la suite de ça, quand on se resitue dans le temps, il y a deux attitudes. Ou tu n'en parles pas, ou tu occultes, ou tu te considères comme responsable de la mémoire de camarades. Or, pour rester fidèle à leur mémoire et à leur sacrifice, il faut en parler. J'en parle, ça intéresse ou ça n'intéresse pas, peu importe, je dis ce qui est resté dans ma tête, dans mon cœur.
Arrivé le jeudi, mon passeur m'indiqua qu'il fallait attendre quelques jours, car les conditions n'étaient pas favorables. Il fallait donc patienter. La ligne de démarcation... Démarcation ligne en allemand, était surveillée par des patrouilles allemandes qui circulaient éventuellement avec des chiens, entre deux postes fixes, séparés de quelques kilomètres. Ces patrouilles fréquentes, circulant à l'improviste, dans ce secteur assez plat, peu boisé, avait vite fait de tirer sur quelqu'un qui se risquait dans les parages. Et il fallait donc essayer, à force d'observation, de trouver le moment opportun. Ce qui était toujours fort aléatoire d'ailleurs. Finalement, et de façon inattendue, par un temps toujours pluvieux, jugé sans doute plus propice à ce genre d'expédition, mon passeur prit la décision de passer à l'action le lendemain, vers midi, je crois me souvenir. Le sort en était donc jeté.
Tu as une génération. Bon, nous, on l'a vécu. La génération qui a suivi nos enfants s'intéresse ou s'intéresse pas. C'est une autre vie pour eux. Dieu merci, ils n'ont pas connu ce qu'on a connu. Enfin, c'est comme ça la vie. Et mes enfants ne l'ont pas vécu, mais je leur en ai parlé. Bon, mes petits-enfants, je leur en ai parlé. Et maintenant, la troisième génération, ça sera l'histoire, pure et simple. Il n'y aura plus de témoins. Moi, j'étais plus jeune.
Voici 5 années environ, je terminais ce livre. Résultat de quelques 10 ans de recherche, de réflexion, de rédaction. En ce mois de juillet 1998, je viens de le relire avec, de ce fait, un certain recul. Et je veux dire qu'à part des erreurs mineures et des fautes d'orthographe, bien sûr, je ne vois rien à y modifier sur le fond. D'ailleurs, tout ce que j'ai exprimé, mûri depuis l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, au long du cheminement de la vie, reflète ma façon de voir et sentir les choses, avec, je le souhaite, suffisamment de clarté, en tout cas de bonne foi. Il est bien délicat de tout dire, même parfois négatif. Mais, du moins, faut-il être loyal, du mieux possible, et pour ainsi dire, toujours.
Quand je serai mort, tu auras des souvenirs. C'est ce que tu m'as dit dans ta lettre.
Dans ma lettre.
Oui, que tu j'ai là ta lettre d'ailleurs. Que c'était important. C'est une belle écriture d'ailleurs, entre parenthèses. Alors. Voilà, ce qui est important pour moi dans cette démarche, recueillir la vie de mon grand-père comme il me la raconte, ses anecdotes, ses pensées, ses émotions, mais surtout revivre une expérience personnelle du lieu, du lien qu'il y a entre nous deux quand tu racontes ces histoires. Tu sais, ça m'a touché beaucoup, ça. Beaucoup. Et tu sais, c'est difficile de partager. C'est très difficile. Moi, mes enfants, avec ta grand-mère, on a vécu pour eux. Et il y a une grande ombre que j'ai sur tout ça, c'est que je n'ai pas dû savoir transmettre ce qui pour moi est essentiel ou ne le transmettre que partiellement. Mais ça, c'est le chemin de chacun. Hein. Moi, je n'ai jamais été capable, je n'ai jamais forcé, mais je n'ai jamais été capable de transmettre ma foi et mon espérance. Tout ça, ça, tu vois, ça a été ma vie, parce que si j'enlève de ma vie cette foi, cette espérance, si j'enlève ça de ma vie, il ne reste pas grand-chose. Moi, je pense que même mes enfants qui n'ont pas ma façon de voir les choses, ils auront des réactions qui sont quand même un peu influencées par ce qu'ils ont perçu de moi. Voilà. Ça, je crois que, d'ailleurs, c'est peut-être vrai pour toi aussi, d'ailleurs, j'en sais rien, mais les enfants, tu sais, des fois, quand on vieillit, plus tu avances dans la vie, plus tu découvres des petites choses dont tu n'avais pas idée. Ça, c'est sûr. Tu découvres, tout d'un coup, moi, je me souviens de choses que j'ai vues quand j'avais 6 ans. Ah, vache, les merdes. Et puis, tu l'as retenu, mais tu ne l'as pas intégré. Tu l'as retenu. Mais des choses de gamin. Mais ça, c'est une découverte à long terme. Et je me rends compte qu'on est influencé par... C'est vrai en tout, peut-être, mais on est influencé par le sang qu'on porte. Tu vois, mon père, que j'aimais, qui a eu une pauvre vie. Avoir été ce qu'il a été et avoir terminé comme SDF. Alors qu'il avait une position, on peut dire, sans forcer les termes, une position nationale en ce sens que il était une personnalité qui a compté dans sa branche professionnelle. Il était conseiller du commerce extérieur de France. Il avait toute chose. Eh bien, j'ai toujours voulu retrouver mon père. J'y suis arrivé. Et je ne le juge pas. Il y a eu une époque où j'avais de l'amertume.
Lorsque le train arriva à Limoges, il faisait nuit depuis longtemps. Alors, je rassemblai mes affaires, descendis sur le quai, puis dans le souterrain. Avisai l'escalier recherché et commençai à en monter les marches, le cœur battant. Tout à coup, j'aperçus, en haut, appuyé sur le parapet, la puissante silhouette de mon père. Il était là, revêtu d'un manteau et d'un chapeau sombre. Évidemment, à travers les embrassades, les sentiments intenses sont impossibles à décrire. Tant et tant de choses passaient dans nos deux têtes. Mon père me serrait à m'étouffer.
Ça a été assez difficile, ça. Un soir, on était... Quand je l'avais rejoint en zone libre, on avait passé une soirée à Nice. Et... On parlait, il faisait nuit, ça ne devait pas être facile à entendre. Je lui ai dit, tu vois, eh bien, je serais devenu un voyou, parce que j'étais révolté contre tout, et je lui ai dit ça. Je lui ai dit, heureusement qu'on m'a tendu la main, mais c'était mal parti. Il disait rien. Mais c'est la seule chose que je lui ai dite. Parce que il était un peu inconscient, malgré tout, de certaines choses. Et ma mère, elle a été solide comme un roc. Mais ce pauvre malheureux, il n'avait pas d'adresse. Il vivait dans les gares. Le gâchis. Moi, je me rends compte que j'ai reçu une influence de ma famille qui est fondamentale. En bien et en mal, peut-être. En positif et en moins positif. Mais...
Et donc, j'en reviens à ma question. Qu'est-ce qu'on garde?
Alors, bonjour. Coucou, ma fille.
Ça va?
Ça va, et toi?
Bon, écoute.
Jeune homme?
Ça, tu rigoles, hein, je suis un vieux tromblon.
Ah oui, t'es un jeune homme.
Un vieux tromblon.
Ça va, Toto?
C'était déjà du parachute.
Ah oui, bah c'est ça. C'est ça dont
le
je
delta,
parle.
Ça n'existe presque plus. Le delta, c'était une aile rigide.
Les œufs en meurette. Moi, je me souviens qu'on faisait les œufs en meurette.
C'est bon, ça, les œufs en meurette.
Alors, qu'est-ce que tu veux que je te raconte?
Bah, papy, tu me racontes ce que tu veux. Hein.
Comment?
Tu me racontes ce que tu veux.
Ah, ce que je veux.
Qu'est-ce qu'on va manger, là, pour le dessert?
On a fait un excellent repas, dans une ambiance familiale, et je conserverai un souvenir très fort, très vivace, de ces moments exceptionnels, de ces moments qui sont pour moi des souvenirs comme des perles. Alors voilà, ça me revient, il y a beaucoup de choses qui me reviennent à la mémoire, à travers le temps. Mes parents, mes grands-parents, ma femme est là, ma femme, Germaine. Toute notre vie ensemble, toute notre vie. Extraordinaire, c'est une grande grâce de l'avoir rencontrée, parce que elle me comprenait bien, elle savait parfaitement m'influencer dans le bon sens du terme, et voilà. Après les 4 enfants qui sont venus combler notre attente, et on avait ce projet avec ma femme d'avoir ses enfants. On les a eus, on a été heureux, et puis le temps a passé. Comme disait Ronsard, le temps s'en va, madame. Non, le temps, c'est nous qui nous en allons. Est-ce que je peux ajouter un petit texte? Je prends sur une autre personne. Une autre personne. La vieille France. Accablée d'histoire. Meurtrie de guerre et de révolution, allant sans relâche de la grandeur au déclin, mais saisie de siècle en siècle par le génie du renouveau. Vieil homme, en crue d'épreuve, détaché des entreprises, sentant venir le froid éternel, mais toujours prêt dans l'ombre à accueillir la lueur de l'espérance, mais regardant les étoiles, je me persuade de l'insignifiance des choses. L'essentiel est invisible aux yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Voilà. Des choses qui me reviennent à la mémoire. Et pour terminer, dans le parc solitaire et glacé. Deux formes. Ont tout à l'heure passé. Leurs lèvres sont mortes. Leurs yeux sont éteints. On entend à peine le bruit de leurs paroles dans le vieux parc. La parole dans le vieux parc solitaire et glacé. Deux ombres ont évoqué le passé.
C'était Tirer le fil, un documentaire de Victor Blanchard. Merci à Jean-Pierre Bourbonnais. Merci à Daniel Crumb et Marlène Koff. Merci à Olivier Rivière et Sébastien Rousselot. Merci à Tom Crébassa et Samia Eladj. Merci à Alexandre Duval, Gilles Mardi-Rossian et Jean-Philippe Navarre. Créadoc, Angoulême, juin 2016.
Inouï. Inouï. Et on va continuer de contempler le temps qui passe avec les oreilles. Cette fois-ci, du côté de la mer. Vous allez écouter Littoral, une adaptation documentaire de Fanny Dujardin, qui dépeint à sa manière le phénomène de l'érosion sur la côte atlantique. Différentes matières s'entrecroisent dans cette création sonore. Des archives de rapports municipaux, les témoignages d'habitants de la ville de Soulac-sur-Mer et des textes littéraires, dont des passages de Littoral de Wajdi Mouawad.
Littoral de Fanny Dujardin.
Alors, au cours d'un conseil municipal de Soulac-les-Bains, la séance extraordinaire du 23 mars 1879, voici l'ordre du jour. Envahissement du territoire de Soulac-les-Bains par l'océan. Monsieur le maire appelle l'attention du Conseil sur l'envahissement incessant et rapide de la mer à Soulac-les-Bains, qui est à la veille d'être engloutie sous les flots. La mer marche sur nous avec une progression effrayante et imprévisible, à tel point qu'il devient inutile de chercher à calculer la moyenne de son envahissement annuel. Cette délibération se doit de faire entendre le canon de détresse et d'appeler au secours.
Jeudi 13 février 2014, Soulac-sur-Mer. Compte rendu de la communauté de communes de la Pointe du Médoc. Objet : érosion marine. Monsieur le maire rappelle que l'action conjuguée des tempêtes Hercule, Petra et des grandes marées ont mis en péril le littoral de la Pointe du Médoc. Dégâts constatés. Plage sud. Destruction de l'école de surf. Secteur du nerf. Attention. Veillez à la stabilité des blocos. Immeuble Le Signal. Évacuation effectuée. Les piquets matérialisant la zone de sécurité ont disparu. Recul de la dune de 5 mètres. Intervention des engins de réensablement en cours. Apport massif de sable de l'ordre de 600 000 m3. Il a été convenu que la communauté de communes ne participera pas au financement de l'acquisition amiable de l'immeuble ni à son désamiantage et à sa destruction. Monsieur le maire souhaite que la négociation avec des financeurs potentiels démarre au plus vite avant que l'immeuble ne s'effondre sur la plage.
Ça s'est passé pendant les tempêtes de janvier 2014. Ils ont reçu une lettre. Il faut partir. Et en 10 jours, le signal a été abandonné. On n'abandonne pas un immeuble. Sauf peut-être pendant la guerre. C'est Françoise qui faisait ce lien. Elle disait que parmi les réfugiés, ils n'étaient pas les plus malchanceux. Partir sans partir. Sentir que ce départ ne fait que préfigurer d'autres départs. C'est un immeuble construit tout au bord. C'est l'histoire d'un temps où les vestiges sont les objets de maintenant. C'est la découverte d'une épave qui pourrait très bien être ta maison. C'est les produits des supermarchés qui se retrouvent tout à coup au cœur d'une ruine, comme les traces d'une autre civilisation.
Comme si on venait du futur.
Alors, ça doit être l'histoire d'un anachronisme.
Il n'y a pas si longtemps, il m'arrivait de me lever, de sortir dans la rue d'un pas léger, avec l'idée de marcher jusqu'à la mer. Comme le souvenir d'un geste simple devient douloureux. Enfiler son manteau, frotter ses mains l'une contre l'autre pour les réchauffer, marcher le long des dunes, se retrouver seul sur le pont d'un bateau.
C'est des petites boîtes, les unes à côté des autres, qui sont presque pareilles mais qui n'ont pas toujours la même couleur à l'intérieur. Des petites boîtes pour des vies isolées. Des petites boîtes faites pour regarder dehors, mais pas pour être regardées du dehors. Pas faites pour se parler entre elles. Des compartiments cloisonnés. C'est un musée un peu tabou.
Rien du tout.
Parce que normalement, personne n'aurait dû pouvoir visiter toutes les pièces. Personne n'était censé explorer d'un seul coup tous les appartements du signal.
Là, il y a un placard. Ici, la salle d'eau. la cuisine et là un balcon. C'est magnifique.
C'est du béton avec du sable dedans. Du béton fabriqué avec des coquillages. En fait, c'est une histoire de matière.
De la suie, de l'acier, du bois mouillé, du verre flotté,
de la peinture qui craquelle, du métal, du carrelage, du sable, de la suie, de l'acier, de pluie, du bois mouillé, du bois flotté,
des canalisations,
du métal et du sable,
de, la roue,
de l'eau,
du pelot d'escalier,
de l'eau de mer, des canalisations cassées.
Voilà, je pense que je vais, tu me dis quand je dois partir, non ?
Quand tu veux.
Quand tu veux. J'ai la voix cassée aussi. Je ne veux pas être entraînée comme le veulent les vagues. Un chien galeux, une épave, emportée n'importe comment, n'importe où. Broyée dans cette immensité par les poissons sauvages. Les hélices des bateaux, les récifs, je ne veux pas.
Je suis soulaqué, je suis né à Soulac en 1937. Et je vois que petit à petit, la mer grignote notre plage. Et bien sûr, c'est émouvant, ça me fait quelque chose. C'est dramatique quelque part. Donc il va falloir investir des millions et des millions et des millions d'arrochements. Sinon, il faut reculer toutes les installations et c'est pas possible. Soit on recule, soit on laisse faire l'océan. Voilà. Tu comprends ? Et si tu mets un obstacle devant l'océan, l'eau, tu l'arrêtes pas. Elle va toujours se débrouiller à contourner, tu vois ? C'est grave, hein ? Mais d'après les scientifiques, les glaciers sont en train de fondre, pour le nord, pour le sud. Donc ça fond, et l'océan, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il monte, il se dilate, et c'est pour ça qu'il y a submersion. Voilà, c'est un problème, l'érosion marine. Ça a toujours existé et ça existera toujours. Voilà. Il faut faire avec et puis il faut essayer de. C'est pas facile. Hein. Bon, qu'est-ce que vous qu'on fasse ?
J'entends les mugissements des vagues qui s'entrelacent jusqu'au rivage. Je les entends, les vagues, haleter vers la jouissance qui ne viendra jamais. Mon âme est rassurée. Je vais aller rejoindre le grand calme des profondeurs. Les vagues m'emportent. La mer m'avale. Je vous confie la terre. Il est l'heure de vous mettre en route. Au bout des villes, au bout des terres, au bout des joies, au bout du temps. Il y a le littoral et la grande mer. La grande mer qui emporte tout et qui m'emporte d'ailleurs.
C'était Littoral, une adaptation de Fanny Dujardin. Avec les voix de Jean-Paul Lescorce, Françoise Mangeot, William Gloria et Fanny Dujardin. Texte issu de la pièce Littoral de Wajdi Mouawad. des recherches de Jean-Paul Lescorce sur l'érosion marine et des comptes rendus des conseils communautaires de la pointe du Médoc. Un grand merci à Françoise et à Jean-Paul de s'être prêtés au jeu. Merci aussi à Clémentine Latelier pour son écoute bienveillante. Créadoc, Angoulême, le 17 février 2017.
Inouï.
Inouï. Une émission,
création et documentaire sonore.
Par les étudiants du Créadoc
d'avant
et d'aujourd'hui.
C'est sur les dunes de sable que nous vous disons au revoir sur Inouï. À bientôt pour de nouveaux embruns dans les oreilles.